VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Midi à Nouakchott, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Mauritanie, les électeurs se rendent aux urnes demain samedi pour un référendum constitutionnel controversé, prévoyant notamment la suppression du Sénat. Un scrutin organisé dans un climat de tension dû aux récriminations du président Mohamedou Abdelaziz et de sénateurs fondeurs et à l'appel au boycott lancé par l'opposition radicale. La campagne émaillée de violence lors de rassemblements de l'opposition radicale engagée dans un boycott actif du scrutin s'est achevée jeudi avec un ultime meeting du chef de l'État. Le président Abdelaziz a accusé de prévarication les sénateurs opposés à la révision de la Constitution. Quelques 1,4 million Mauritaniens sont appelés aux urnes de 7h à 19h temps universel demain, les résultats étant attendus en début de semaine prochaine. Les législatives au Sénégal maintenant, la coalition présidentielle a été proclamée victorieuse à Dakar après 3 jours d'attente et une interminable guerre des chiffres. À Dakar, l'opposition fidèle au maire de la capitale, Khalifa Sall, conteste les chiffres et accuse le pouvoir de hold-up électoral. Les partisans de Khalifa Sall annoncent une bataille devant les hautes juridictions sénégalaises. On écoute Moussa Taye, conseiller politique du maire de Dakar.
Naturellement, la coalition Mankota au Sénégal réfute ces résultats-là. Nous ne les reconnaissons pas parce que nous pensons qu'ils sont truqués. C'est une faute de la coalition Bernard Bokyakar. Et nous allons utiliser toutes les voies de recours possibles. Non seulement nous allons attaquer la décision au niveau de la Cour d'appel, et même demain au niveau de du Conseil constitutionnel, mais également politiquement nous prendrons toutes nos dispositions pour nous opposer à cette forfaiture.
Moussa Taye, conseiller politique du maire de Dakar au Sénégal. Côte d'Ivoire, le commissariat de police de la ville d'Adzopé, à 100 de kilomètres de la capitale économique ivoirienne, Abidjan, a été attaqué par des éléments armés dans la nuit de jeudi à vendredi. Des hommes armés ont attaqué le commissariat, séquestré les policiers, pris les armes et libéré les prisonniers entre 3h et 4h du matin, a rapporté un habitant à l'AFP. Ils étaient environ une trentaine, ils portaient des tenues militaires et des cagoules, a précisé une source policière sous couvert d'anonymat. Les assaillants ont aussi attaqué des stations-service, a indiqué un autre habitant. Le calme est maintenant revenu dans la ville. Au Niger, le président Mahamadou Issoufou s'est inquiété de la démographie galopante dans son pays. Le Niger détient le plus fort taux de natalité au monde avec au moins 7 enfants par femme, Solange Nyamulissa.
À l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance du Niger, le président a déclaré qu'au rythme actuel, la population de son pays va doubler en moins de 18 ans et va atteindre plus de 40 millions en 2035. Selon les statistiques, la croissance démographique du Niger, 3,9% par an, est l'une des plus fortes au monde. Le pays, abonné aux sécheresses et aux crises alimentaires, ne pourra pas faire face à un tel poids démographique. Monsieur Issoufou a prévenu que si les Nigériens n'arrivent pas à éduquer, former, soigner leur jeunesse et offrir des opportunités d'emploi, la population sera un handicap, une menace pour la cohésion sociale. Son gouvernement mise sur la fin du mariage et naissance précoce, la scolarisation et la formation des jeunes filles pour faire baisser le taux de natalité.
Au Rwanda, de longues files d'attente se sont formées ce vendredi dès l'ouverture des bureaux de vote pour une élection présidentielle que le président sortant Paul Kagame aborde avec une totale confiance. Paul Kagame, 59 ans, est arrivé au pouvoir après le génocide de 1994 et est président depuis 2000. Il a stabilisé le pays grâce à une croissance économique rapide. Ses opposants jugent toutefois que ce développement économique s'est fait au détriment des libertés civiles et ils estiment que le climat de peur s'est installé avant le vote de ce vendredi. Au Kenya, la vallée du Rift sur les nerfs à l'approche des élections générales du 8 août et épicentre des violences post-électorales de 2007-2008, la région attend avec une certaine angoisse ce scrutin, consciente que la paix reste fragile et que de nouveaux débordements ne sont pas à exclure. Il y a 10 ans, la réélection contestée du président Mwai Kibaki en décembre 2007 a dégénéré en violences politico-ethniques qui, en 2 mois, ont fait plus de 1 100 morts et 600 000 déplacés. La vallée du Rift, dans le centre-ouest du Kenya, avait été le foyer des affrontements les plus violents entre les deux principaux groupes ethniques de la région, les Kikuyu et les Kalenjin.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, quelque 251 personnes, dont 60 enfants, ont été victimes d'exécutions sauvages entre mars et juin dans la région du Kasaï, dans le centre du pays. Des violences perpétrées par des agents de l'État, des milices ou des rebelles, selon un rapport de l'ONU publié ce vendredi à Genève. Le bilan a été dressé par une équipe d'enquêteurs du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU sur les massacres ethniques dans la région du Kasaï, souligne un communiqué de cette agence onusienne. Au Congo-Brazzaville, grande détresse des patients du centre hospitalier universitaire de la capitale. De nombreux patients sont sans assistance médicale et pour cause, les agents sont en grève illimitée avec un service minimum. Le personnel de l'hôpital réclame 3 mois de salaire impayé et des avantages sociaux. Selon les syndicats, aucune suite n'a été donnée jusqu'à présent à leur demande. La correspondante de Ngolan Goussou à Brazzaville.
Ce triste spectacle peut devenir le quotidien au CHU de Brazzaville si on y prend garde. Les malades, eux, ne savent plus à quel saint se vouer. Cette femme explique en lingala que les malades décèdent dans la nuit faute d'assistance médicale. Arrivé sur un fauteuil roulant, un autre malade est venu enlever le plâtre de son pied, mais personne pour le recevoir. Il est tout triste sur le perron de l'hôpital.
Je suis perdu, désespéré parce que je dois reprendre le boulot lundi prochain et on ne sait pas quand est-ce que va finir leur grève. On attend. Ouais, je suis pris en otage, clairement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut. On m'a dit d'attendre clairement la fin de la grève. C'est vraiment malheureux.
Le responsable syndical des médecins du CHU, Dr Albert Ngatse Oko, revient sur les revendications des travailleurs.
Non, rien d'autre que le salaire. Je crois que le pays connaît certainement des difficultés au niveau des finances, si bien que les travailleurs ont déjà un certain nombre de mois sans être payés et ça fait quand même coincer. C'est pour cela qu'ils sont excités, énervés, essayer de maintenir sans pouvoir le contenir. Évidemment, on est arrivé à la date butoir.
Sur les 3 mois de salaire dus, les agents sont prêts à en accepter 2 avant de reprendre le service. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Cameroun, les citoyens se mobilisent pour soutenir l'effort de guerre contre Boko Haram en donnant leur sang en faveur des nombreux soldats blessés. Mais les banques de sang continuent malgré tout de connaître des pénuries. Un reportage de Moki Edwin Kidzeka rendu par Lionel Gaïma.
Des centaines de personnes sont rassemblées dans la cour de la communauté urbaine de Yaoundé. Elles veulent donner du sang pour les soldats blessés dans les combats contre Boko Haram. Anatole Bihinam, 50 ans, attend de subir un test pour déterminer s'il peut être donneur.
Nous le devons beaucoup de respect et beaucoup d'encouragement parce que nous voyons ça à travers la télé ou bien d'autres documentaires faits, mais nous voyons bien que ces gars-là sont dans un front vraiment front. Je ne connais pas si je suis un bon donneur ou un mauvais donneur parce que je crois qu'il y a des tests qui se font et qu'on voit le bon ou le mauvais sang. Mais si il arrivait qu'on trouve que moi j'ai du bon sang et que je peux donner, donc ça je n'hésiterai pas pour donner un petit goût de sang à celui qui sauve des vies. Mais écoutez.
Le Cameroun a déployé 3000 soldats à sa frontière nord avec le Nigeria dans le cadre de la force multinationale pour combattre Boko Haram. 1 millier d'autres soldats positionnés le long de la frontière avec la République centrafricaine ont pour mission d'empêcher les incursions des rebelles centrafricains. Depuis le début de son offensive il y a 2 ans, la force régionale a délogé Boko Haram de beaucoup de zones, mais les raids des djihadistes et des attentats suicides ont continué. D'après les responsables de santé, des centaines de blessés, dont plusieurs soldats, sont morts, en partie à cause du manque de sang, les besoins étant estimés à 200 000 litres chaque année. Pour le docteur Biwole Sida du centre hospitalier de Yaoundé, donner du sang aide, mais ce n'est pas suffisant.
S'agissant des hépatites virales au Cameroun, nous avons des prévalences qui varient entre 10% et 13%, notamment pour l'hépatite B et l'hépatite C.
Parmi ceux qui veulent contribuer à combler le gap, Zanele Makina, une Sud-Africaine qui a pu mobiliser 200 donneurs de sang rien que cette semaine.
It's amazing. It's very good.
C'est remarquable, c'est très bien. Nous ne nous attendions pas à autant de mobilisation des Camerounais, mais dès que les gens ont vu notre installation pour recueillir du sang, même les petits vendeurs du marché ont répondu à nos appels au mégaphone. Ils sont venus se proposer pour donner du sang.
Dans un communiqué, l'armée camerounaise a chaleureusement remercié la communauté sud-africaine pour cette belle initiative. Le président Paul Biya encourage les citoyens à soutenir les soldats. Le gouvernement de Yaoundé dit avoir reçu de la population de grandes quantités de produits alimentaires et jusqu'ici des fonds de l'ordre de 6 millions de dollars en aide à l'armée ces 2 dernières années.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.